Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadrap, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Charlotte. Elle fait partie de ces personnes qui entendent souvent la phrase « Quel beau métier vous faites !» En effet, elle exerce la profession de pédiatre néonatologiste. Bonne écoute ! Bonjour Charlotte !
Bonjour Marielle !
Comment vas-tu ?
Ça va très bien, merci. Je suis contente de te rejoindre aujourd'hui.
Eh ben moi, je suis ravie de te recevoir à mon micro et je te remercie d'ailleurs de me rejoindre après une nuit de garde au travail. Je suis vraiment très, très touchée que tu amputes ton temps de sommeil, parce que je crois qu'il n'y a rien d'autre, pour venir discuter avec moi. C'est vraiment adorable.
Eh ben écoute, ça me fait plaisir aussi. Et puis ça fait partie, oui, du métier. On s'habitue aussi à, après une nuit, même si on a travaillé, on a vécu des choses faciles ou pas faciles, et à repartir sur une journée normale avec la vie de famille, les enfants, les autres choses à faire, et on passe à autre chose, parce que sinon ça serait trop dur. C'est sûr qu'il y a peut-être des matins où c'est difficile de quitter ce qu'on a fait, mais il y a d'autres matins où ça fait partie de la casquette, on change de casquette.
C'est adorable, merci beaucoup. Charlotte, je te laisse te présenter pour les personnes qui nous écoutent.
D'accord, je suis Charlotte, mon prénom, je suis pédiatre et néonatologiste. Alors, j'y tiens beaucoup parce que c'est vraiment mon métier passion et le cœur de mon métier qui me plaît le plus. Ça veut dire que je m'occupe surtout dans la pédiatrie qui est les enfants de 0 à 18 ans, les nouveau-nés, qu'ils soient nés en avance ou pas, mais qui ont besoin d'aide ou pas, parce que je fais aussi du travail en maternité avec des enfants qui vont très bien, des parents qui sont très contents. Et puis j'exerce depuis une dizaine d'années dans différents endroits qui m'ont apporté beaucoup de choses. Et puis je suis maman aussi également depuis quelques années, donc ça a forcément ajouté des petites cordes à mon arc
j'imagine
dans mon métier, et de me mettre à la place des parents. Et c'est vrai que ça a changé mon regard un petit peu. Au début, j'étais très technique, forcément, parce que c'est aussi un côté du métier qui est très intéressant. Et puis, après, on développe un peu plus l'aspect familial, parce que nous, on travaille effectivement en pédiatrie, pas qu'avec le nouveau-né, le bébé ou l'enfant, mais également avec sa famille. Ça fait partie intégrante des choses.
C'est certain. Est-ce que devenir, c'est-à-dire se lancer dans les études de médecine puis devenir pédiatre, pour toi c'était une vocation? C'est quelque chose qui était clair pour toi depuis très longtemps? Comment ça s'est façonné cette idée?
Quand il a fallu réfléchir un peu à l'orientation, c'est-à-dire au lycée, je pense que j'avais 16-17 ans, je voulais travailler avec les enfants. Ça, c'était un peu une constante. J'aimais bien ce côté un peu spontané, naïf. Avec les enfants, je trouve que c'est facile de travailler. En tout cas, c'est un point que j'avais qui était facile pour moi. Et puis, une amie de ma mère m'a dit un jour, écoute, il faut que tu réfléchisses. Et, si tu veux travailler avec les enfants sains, les enfants qui vont bien, éducatrice, enseignante, choses comme ça, ou les enfants malades, si ça te rebute pas.
C'est un super axe de questionnement, tu vois, j'ai encore jamais entendu quelqu'un me dire ça, mais c'est hyper intéressant.
Écoute, oui, elle était puéricultrice de métier, et vraiment pour elle, il fallait faire un choix entre guillemets d'emblée dans ce qui me plaisait ou ce qui me plaisait pas, justement, ce qui pouvait me rebuter. J'ai dit allez, ça veut dire être pédiatre, d'accord, études de médecine et tout ça, allez. On y va, c'est parti, on va faire en sorte que, et puis la chance m'a accompagnée, le fait que j'aimais bien aussi les études et que, avec quelques années un peu difficiles, la première et la dernière, où on passe beaucoup de temps à réviser en vue des examens finaux, ça s'est tissé comme ça, et puis après, avec une fois qu'on a passé ces étapes-là, des pures études de médecine à la fac, on va dire, il y a tout ce qui est la partie spécialisation, et puis vraiment, c'était ma carotte, de me dire, au bout de tous ces 6 ans, je pourrais travailler en pédiatrie si j'y suis arrivée, et je travaillerais qu'avec des enfants, plus d'adultes. J'avoue que ça, dans les stages, c'était pas ma partie la préférée, mais même si...
Donc ça s'est confirmé au fur et à mesure des études,
oui,
où tu t'es sentie à ta place, vraiment dès que t'étais en pédiatrie, quoi.
Dès que j'ai pu avoir des choix de stage en pédiatrie, parce qu'on en a quelques-uns pendant nos études, nos 6 premières années à la faculté, j'ai choisi la néonatologie pour le premier, j'ai vraiment tout orienté pour ça, et c'est vrai que c'était un choix qui a toujours guidé mon parcours, qui m'a redonné du courage quand je commençais à trouver les choses un peu dures ou que ça roulait pas de la façon dont je le voulais.
Est-ce que tu as eu peur à un moment donné de te dire peut-être que j'ai idéalisé quelque chose, que j'ai rêvé de cette place, de ce poste à l'hôpital, et puis en fait, en arrivant en stage, voilà, peut-être d'avoir peur de ne pas s'y retrouver justement?
C'est un peu qui tout double, hein, c'est sûr. Et ça m'a toujours rassurée de me dire, bon ben voilà, des tôt dans mon parcours, j'ai pu passer voilà en néonat en tant que vraiment étudiante, un peu observation, hein, on faisait pas grand-chose à cette époque-là. Et de me dire, oui, ah oui, ça me plaît. Ouais, d'accord. Bon ben, il y a des choses dures. Parfois, voilà, il y a des bébés qui vont très très mal, etc. Ou des familles qui vont très très mal autour de ce bébé. Mais non, je me dis pas, non, je suis pas capable de faire ça. Alors que d'autres stages, par exemple, de faire la cancéro-pédiatrique, hein, des bébés qui ont des maladies, des cancers, des leucémies, des choses très graves. Ça, je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Je peux le faire, voilà, 6 mois, je découvre, mais je vois que moi, je peux pas arriver à gérer tout ça. C'est beaucoup trop violent. Et heureusement, bah, y en a qui aiment bien ça, qui se destinent à ça et qui aiment pas du tout mon côté, enfin, la néonatologie, les bébés, etc. Il en faut pour tout le monde, mais voilà, moi, je savais que c'était pas du tout mon domaine, mais que la néonatologie, les nouveau-nés, ça restait vraiment quelque chose qui me motivait énormément.
Et j'ai une question un peu bête, mais du coup, si on est oncologue, cancérologue en pédiatrie, on est à la base oncologue et on se spécialise en pédiatrie par la suite, c'est pas l'inverse?
Le plus souvent, non, c'est des pédiatres qui font une spécialité d'oncologie.
D'accord.
Il y a un petit peu de tout, parce que ben, parfois, il y a aussi des plus grands et il y a beaucoup de choses qui se comportent comme des tumeurs adultes. Mm-hmm. Mais il y a quand même beaucoup de pédiatres, enfin, d'onco-hématologues pédiatres qui sont pédiatres à la base, ouais, effectivement.
Ok. Donc toi, t'arrives à l'internat, ça roule, pas de redoublement, pas de soucis
non.
pendant les études, tout se déroule bien.
Tout à fait. Franchement, des années, des bons souvenirs, même s'il y a eu des années, voilà, de beaucoup de révisions, enfin, tout ce qu'on entend sur la première année de médecine et sur la dernière année, mais aucun regret, voilà, une super ambiance à la fac, voilà, des amis pour toujours, voilà, qui aident aussi à passer tout ça, et une très bonne formation qui m'a amenée jusque-là, donc je pense que tout le monde a contribué, voilà, au médecin que je suis devenue, au pédiatre que je suis maintenant.
Oh, ça fait plaisir d'entendre ça. C'est génial. Bon, alors, je crois savoir, d'après ce que tu m'avais écrit dans ton mail, que après, il y a eu des lieux d'exercice un peu variés. Alors, est-ce que tu peux nous en parler?
J'ai migré. Bah, c'était aussi ça, l'intérêt de, voilà, des études, bon, qui sont un peu prolongées, mais j'avais possibilité de bouger. Et puis, on a des trous, des fois, on attend des postes, voilà, ça se déroule, mais il y a de l'attente, parce que, bah, on n'est pas tout seul à vouloir faire de la nounade, par exemple. Donc, bah, j'ai dit, allez, je vais en profiter, par-ci, par-là, je vais me balader. Donc, d'abord, je suis allée à Paris. Alors que je suis plutôt sur Lyon, hein, j'ai fait mes études autour de Lyon, donc je suis partie un an à Paris dans un service très très spécialisé des très grands prématurés, c'est à Port-Royal. Donc voilà, c'est vraiment une maternité qui fait du tout petit bébé, et c'est pareil, ils m'ont donné un peu mes premières armes de chef, hein, de grand docteur. J'étais plus le docteur junior, on va dire, qui a besoin d'être avoir quelqu'un derrière son épaule pour donner un petit coup de main, pour donner confiance en soi. Et là, c'est là que j'ai fait mes premières gardes vraiment de chef, quoi. C'était moi qui devais prendre les décisions pour les enfants.
C'était pas trop intimidant, pas trop comment t'appréhendais tout ça?
En fait, comme j'ai passé un an avec l'équipe et que j'ai été 6 mois encore donc interne, donc encore apprenant, encore encadré, et puis après 6 mois où j'ai été chef, donc un peu plus moins encadré, beaucoup plus en responsabilité, bah ça s'est fait progressivement. Donc ils avaient confiance en moi, ils m'ont soutenue, ils m'ont dit et ils m'ont fait confiance aussi. Ils m'ont proposé d'avoir ce poste-là et de faire des gardes. Donc ça s'est fait vraiment tout de suite. J'ai pas eu à me dire, ah mince, comment ça va se passer, je connais pas. Non, c'était l'avantage, c'est que je connaissais tout, le logiciel, les équipes. Et puis en plus, comme c'est quand même une grosse maternité, enfin un gros service de néonat, on est deux en fait de garde, parce qu'on se partage un peu les différents secteurs de la néonatologie, de la réanimation, les enfants les plus instables, jusqu'à la néonatologie simple ou les unités mère-enfant. Donc il y a aussi toujours un petit collègue pour donner la main quand on a deux situations. Ça c'est toujours le plus difficile. En même temps, deux bébés qui ont besoin de nous en même temps.
Ah, oui, bien sûr.
Et ben là on peut pas se couper en deux.
Oui, c'est sûr.
Ah, ouais. Là on apprécie d'avoir un collègue, et puis on a toujours aussi un interne, hein, quelqu'un qui est en apprentissage, voilà, de la pédiatrie ou de la néonate, vraiment. Donc on n'est jamais vraiment tout seul, isolé, et puis on transmet notre savoir, et en même temps nous on apprend on apprend des choses. Donc ça, c'était la case Paris. J'ai aussi beaucoup profité de la vie parisienne parce que j'aime beaucoup ça aussi, me promener tout simplement dans Paris, mais aussi aller voilà au théâtre, à l'opéra, voilà,
ah,
vraiment
super.
Profiter de cette grande ville. Et puis après, ben je suis partie encore plus loin. Cette fois, j'ai pris l'avion pour traverser l'Atlantique parce que j'allais au Canada. Ça aussi, c'était, j'ai commencé ce projet quand même au début de mon internat parce que ça prend un petit peu de temps, le temps de joindre les équipes, de faire les équivalences, les demandes de bourses, etc. Donc, j'allais à Montréal, au Québec. L'avantage, c'est que c'était francophone. Moi, j'étais à l'hôpital Sainte-Justine, qui est assez connu en pédiatrie, voilà, à Montréal, et dans l'unité de néonates. Hein, encore une fois, on change pas une équipe qui gagne. Et
donc, c'était dans les tuyaux depuis longtemps. Enfin, c'est un projet que toi, tu avais en tête depuis un moment, du coup, si c'était depuis l'internat.
Mon chef de service de néonates de mes études m'avait dit au début, ce qui est bien aussi, c'est si tu as la possibilité, c'est de partir un peu à l'étranger, aller voir d'autres façons de faire, parce que la néonatologie, c'est quand même une discipline assez récente, on va dire, au sein de la pédiatrie, et où il s'est développé beaucoup de choses, et chaque pays, chaque culture a apporté des choses nouvelles. Donc c'est vrai que de rapporter aussi cette culture, s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait nous en France en néonates, est-ce qu'on pourrait pas s'inspirer de tel ou tel, l'adapter à notre culture. Donc oui, c'était d'assez longue date prévu. Moi, j'avais choisi dans les différents pays qui étaient possibles, plutôt le Canada et le Québec.
On dit souvent, en tout cas en soins infirmiers, c'est quelque chose que déjà que j'ai observé moi-même et qu'on dit souvent que le Canada, puis voilà, la province du Québec également, sont très en avance sur beaucoup, beaucoup de choses dans le domaine médical, paramédical. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti ?
Oui, j'ai trouvé qu'ils étaient très axé sur pas uniquement le soin, mais il y avait tout ce qui était à côté, c'est-à-dire la partie enseignement, qui est très, très, et beaucoup de pédagogie, beaucoup de laboratoires de simulation, des acteurs. J'ai fait des annonces de maladies difficiles avec des acteurs qui pouvaient me renvoyer un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient ressenti, qu'est-ce que je pouvais changer dans la façon dont je pouvais expliquer ça. Et aussi, les plus jeunes, les internes aussi, ont ce type d'enseignement. Et puis, toutes les semaines, il y a des créneaux, justement, pour chaque catégorie. C'est l'après-midi où on a cours, quoi. Donc, voilà, on donne son bip, son téléphone et on va en cours.
Ah,
ouais. C'est très très respecté. En France, des fois, il faut faire des autorisations à l'avance, voir avec ses collègues pour échanger, alors que là-bas, non, c'est tel après-midi, c'est l'après-midi de cours des internes, ils s'en vont, il y a les autres qui sont là pour continuer d'assurer le service.
Ouais, la formation, elle est vraiment intégrée dans les journées de travail, quoi.
Elle est respectée, elle fait partie vraiment intégrante. Et puis l'autre pôle, c'est le pôle de la recherche. La recherche même clinique, c'est-à-dire pas forcément dans des laboratoires sur des animaux ou dans des pipettes, mais suivre le développement de certains enfants sur certaines pathologies. Et ça, c'est aussi très très mis en avant. Et même les plus jeunes pédiatres peuvent. J'ai passé un an là-bas. J'avais deux fois un mois, je crois, où c'était consacré à ma recherche. Donc, je faisais des gardes à côté, bien sûr, pour continuer assurer la continuité du service. Mais en journée, on va dire, j'étais plus dans le service à m'occuper des bébés, je faisais de la recherche. Et j'ai pu mener sur un an, je pensais pas, mais j'ai pu mener à bien un petit projet de recherche un peu technique, sur du matériel, que j'ai pu ensuite après valoriser. Donc c'était super, quoi. En France, malheureusement, on n'y est pas arrivé. Enfin, moi, je n'y suis jamais arrivée à pouvoir me dégager du temps, en plus du quotidien, de la clinique.
Oui, en France, c'est peut-être deux secteurs vraiment distincts. Et puis, une fois qu'on exerce, on n'est plus dans la recherche, quoi.
Oui, ou alors, on a, c'est déjà très établi à l'avance. On a une part de notre temps recherche et une part de notre temps clinique, quoi. On ne rogne pas dessus. Donc, c'est vrai qu'ils ont une organisation pour ça, en tout cas, que j'ai trouvé vraiment exemplaire et qui leur permet d'avancer. Forcément, quand tu as le temps, tout le monde a le temps de faire de la recherche, il y a beaucoup de pôles de recherche qui peuvent être mis en place. Et on fait des découvertes et on avance avec ça. Et ça fait partie de leur culture, de l'enseignement médical. Et puis beaucoup de retours aussi sur l'enseignement, justement. Tu évalues tes profs, donc tes pairs, les internes évaluent ce que toi tu fais. Il y a toujours un retour pour que tout le monde s'améliore et continue sa formation aussi, sa formation continue.
Ça, c'est vraiment les points. Complet comme approche, c'est incroyable.
Oui, c'est vraiment ce que j'avais trouvé.
De toute façon, moi je me suis souvent fait la réflexion, tu vas sur Google, tu tapes une question de santé, t'as beaucoup beaucoup de sites canadiens qui viennent, .ca, on le voit quand même très souvent dans les adresses, moi pour des travaux de recherche que j'ai pu faire aussi, il y a de la littérature sur beaucoup, beaucoup de choses dans beaucoup de domaines différents. Ah ouais, c'est vrai que c'est admirable. Et donc, toi, quand tu es parti au Québec, c'était établi que c'était pour un contrat d'un an ou est-ce que c'est toi qui as décidé d'y rester un an?
Non, c'était un parti surtout parce que j'avais un poste après qui m'attendait pour finir ma formation de néonatologiste en France, qui commençait voilà, un an plus tard. En fait, j'avais ce trou, plus les 6 mois que finalement j'ai continué à Paris au-delà des 6 premiers mois qui étaient posés. Donc, il y avait ce délai de un an. Mmh. Après, de toute façon, il y a quand même plus d'étudiants, enfin de personnes qui se forment en néonat que de postes aussi au Québec et qu'il y a une vraie politique canadienne de priorité aux Québécois. Mmh. Donc, de toute façon, il n'y avait pas forcément de possibilité de poste ensuite. J'aurais pu prolonger un petit peu ma formation, mais je ne pense pas que j'aurais pu m'installer là-bas.
Puis, c'était une parenthèse dès le départ, quoi.
Voilà, c'était vu comme ça, mais okay. Je n'étais pas fermée à l'idée de, voilà, de trouver ça super et de pouvoir y rester, au grand dame de mes parents. Mais
j'étais contente que je sois rentrée. Un peu loin.
C'est ça, même s'ils sont venus plusieurs fois. Donc voilà, ça s'est fait et ça reste vraiment quelque chose de marquant dans ma vie et dans ma vie professionnelle comme personnelle.
Ah bah c'est certain, ouais. Et alors, cette formation de néonatologiste, c'est quelque chose que tu entreprends après avoir passé ta thèse, ton doctorat de médecine?
C'est ça. D'abord, on devient médecin au bout de nos 6 années d'études. Après, moi, j'étais donc pédiatre, puisque j'ai fait le choix de partir dans la pédiatrie au bout des 4 ans d'internat. Et après, moi, j'ai rajouté cette formation de néonatologiste. Et c'est 2 ans de formation pratique, et puis on a aussi des cours qui valident ces compétences-là spécifiques de néonatologiste. Donc c'est en plus du diplôme de pédiatre, c'est pour ça que je suis pédiatre néonatologiste.
Oui, mais bien sûr, oui.
Et c'est vraiment axé encore plus dans ce domaine-là.
C'est un diplôme universitaire ou comment, quel nom il a ce diplôme?
C'est un DESC, donc c'est un diplôme d'études spécialisées complémentaires.
Ok, ok. Qui est une formation nécessaire pour travailler en néonatologie ou est-ce que c'est toi qui as choisi de rajouter cette corde à ton arc, on va dire?
C'est pas nécessaire, mais c'est vrai que c'est souvent, pas exigé, mais recommandé pour certains postes qui sont spécifiques à la maternité, voilà, un service de néonatologie, d'avoir une bonne expérience de la néonatologie ou même d'avoir le DESC. C'est vrai que c'est vraiment gage d'avoir travaillé, d'avoir exploré beaucoup, beaucoup de domaines qui ont trait à ça et d'avoir une formation pratique dans ce domaine. Le diplôme, il valide ça aussi. Donc oui, moi, c'était établi que ça me gênait pas de poursuivre un petit peu au-delà de l'internat mes études, entre guillemets. Mais alors qu'on travaille, hein, on est déjà dans un service de néonatologie, c'est juste qu'on a quelque chose à faire un peu supplémentaire pour ce diplôme-là.
Et pas trop de difficultés du coup à mêler la vie pro et ces études en plus?
Écoute, non, ça a été parce que il y avait un mémoire à rendre pour ce diplôme-là et que mon travail de recherche du Québec m'a servi pour faire cette validation. Donc j'ai pas eu en plus encore un autre travail de, comme tu dis, de mémoire, enfin voilà, de bibliographie ou autre à faire, donc ça me laissait voilà mon investissement déjà au travail en réanimation sans trop rajouter en plus à part les révisions voilà des cours pour l'examen. Il y avait un examen théorique bien sûr, mais non, j'ai pas trouvé ça lourd, mais aussi parce que j'adore ça, parce que c'est vraiment mon cœur de métier, comme je dis, c'est vraiment mon métier de cœur et mon cœur de métier, c'est ça, c'est les nouvelles.
Oh, c'est génial. Alors, qu'est-ce qui te plaît en pédiatrie et qu'est-ce qui te plaît par extension en néonatologie?
Et c'est vraiment que l'enfant, il demande rien. Lui, il est très spontané. Il est aussi très dépendant. Hein. Les petits humains, ils naissent, ils sont pas du tout autonomes par rapport à d'autres mammifères, d'autres animaux ou les bébés, voilà. On se lever et marcher, nous on n'est pas du tout dans cette catégorie, et que si on donne pas des soins adéquats à un nouveau-né, les choses se passent très mal, très rapidement. Et dans cette partie-là de la pédiatrie, c'était de me dire les prématurés, ils ont encore moins choisi d'arriver en avance, et leurs parents non plus, et c'est un moment donné où on peut leur donner une chance. Après, on sait que tout n'est pas gagné, c'est pas parce que la néonatologie a fait des gros progrès, on déplore encore des bébés qui vont décéder malgré tout avec cette prise en charge, créant voilà du deuil néonatal pour des parents déjà souvent bien éprouvés par la grossesse, par le parcours parfois pour obtenir la grossesse. Donc c'était d'être ce passage, ce veilleur de vie entre guillemets, quelle qu'en soit la durée, parce que parfois aussi on sait qu'il y a une malformation très importante qui ne pourra pas être compatible avec une vie normale très longtemps, et que ben ça aussi on l'accepte, ça fait partie aussi du métier, et que toute vie, tout instant de vie, quel que soit des minutes, des heures, des jours, c'est respectable et ça doit se faire dans la dignité aussi. C'est vraiment un côté du métier qui est important pour moi aussi, c'est d'accompagner tout, même si bien sûr que sur d'autres choses, je vais déployer d'énormes techniques de respiration artificielle, de nutrition artificielle, et y a des choses magiques, il y a vraiment des traitements qui changent tout. Mais voilà, je sais aussi la limite et que on peut pas tout réparer, on peut pas tout faire. Si une grossesse, ça doit durer 9 mois, dans l'idéal, il y a aussi une raison.
Bien sûr.
Et qu'on peut pas, voilà, on n'a pas encore inventé, souvent je dis, d'utérus artificiel. On peut pas continuer à faire évoluer les fœtus dans un milieu parfaitement adapté jusqu'à ce qu'il soit à terme. On fait au mieux et on essaie de le faire, voilà, le plus humainement possible. Maintenant, on a beaucoup ramener les parents dans les néonates et on continue dans ce domaine-là d'être associé, d'être pas juste ah ben nous on fait tout, on est les soignants, on va tout. Non, on a aussi besoin des parents dans ce parcours-là.
De les rendre acteurs aussi de la santé de leur enfant à travers eux, quoi.
Exactement.
Que, ça, bah, c'est quelque chose qui a évolué, qui a changé avec le temps, tu trouves ?
Oui, au début j'étais très axée sur la technique parce que j'avais des choses à apprendre, tout bêtement. Bien sûr que pour pouvoir bien m'en occuper, je dois aussi poser des cathéters, poser des sondes, etc. Et apprendre plein de choses parce que c'est très très vaste ce qui peut arriver à tous ces jeunes enfants. Et après, effectivement, petit à petit, au Canada aussi, on réfléchissait pas mal là-dessus parce que ils estimaient qu'à notre niveau de formation, voilà, tout ce qui était purement technique, de la médecine de base, on avait acquis et qu'on travaillait d'autres compétences qui sont, voilà, l'annonce de choses difficiles, l'accompagnement, voilà, palliatif aussi, d'autres réflexions sur notre pouvoir ou notre non-pouvoir et nos limites de ce que l'on peut faire. Savoir s'interroger, parfois prendre un peu de la distance sur ce qu'on fait, est-ce que c'est pas de l'acharnement thérapeutique, et qu'il faut se poser la question de réorienter les soins qu'on fait chez le bébé, d'être moins agressif.
Il y a des notions aussi qu'on a découvertes et qui dépassent un peu le domaine très très technique, mais je pense notamment à la gestion de la douleur. Je crois qu'il y a 30, 40, 50 ans en arrière, on pensait en tout cas que les enfants jusqu'à un certain âge ne ressentaient rien.
Oui.
On partait de ce principe-là, et puis aujourd'hui on a des preuves que, tu vas nous en dire plus, là je lance un peu des idées comme ça, mais moi c'est pas mon domaine, mais je crois qu'on a des preuves que les enfants ressentent des émotions dès les premières minutes de vie.
Et de la douleur aussi, et que leur environnement de la naissance, surtout quand ils sont très prématurés, est extrêmement... Il y a beaucoup de gestes douloureux dans une journée. Toutes les petites piqûres pour avoir du sang, pour regarder un taux de sucre dans le sang, ben parfois ils en ont 8 fois par jour, c'est quand même important. Le brassard qui va serrer le bras pour prendre la tension, c'est pareil, ça peut être toutes les heures, parce qu'on a besoin d'être sûr qu'ils ont une bonne tension. Et tout ça, quand il y a des études qui ont vraiment regardé, voilà, ce nombre de gestes qui paraissent anodins, qui sont dans notre quotidien, et ben oui, ils sont très nombreux et il faut prendre en charge cette douleur. Les bébés, même prématurés, ont les systèmes nerveux qui permettent d'enregistrer cette douleur. On est en train de leur faire quelque chose à un endroit et que l'information arrive bien au cerveau, et que en plus, ils ont des systèmes qui amoindrissent cette douleur, qui inhibent, qui se disent non, attends, le stimulus douloureux, là, il est trop important, il faut que je calme les choses, qui sont pas efficients du tout à cause de leur prématurité. Donc, ils ont même probablement plus mal qu'un bébé à terme.
Du fait de leur immaturité, probablement cérébrale, d'accord.
Exactement. Donc, il faut aussi le prendre en compte. Et puis, il y a la mémoire de la douleur. Avoir tant de gestes douloureux, effectivement, ça fait qu'on va anticiper plus vite la prochaine douleur qui va arriver, au prochain soin, avoir une appréhension qui va augmenter le ressenti de la douleur. Donc c'est vraiment pour tous les soins, on va réfléchir comment on peut le faire, est-ce que c'est adéquat de le faire maintenant, est-ce qu'il ne faut pas qu'on soit deux, on a bien sûr l'emploi du sucre, hein, des solutions sucrées, on sait que ça plus la succion, de sucer une tétine, ses doigts, d'être au sein de sa maman, c'est quelque chose qui va être ontalgique et qui va être efficace, et puis toute la panoplie des traitements antidouleurs qu'on a chez l'adulte aussi, avec des doses adaptées bien sûr, mais jusqu'à voilà, la morphine, il faut déployer ce qu'il faut, parce qu'un bébé qui a mal va pas bien se développer, il va être voilà, pris dans cette expérience négative de la douleur et il va pas pouvoir avoir du temps disponible aussi pour pouvoir consacrer à son développement, à des choses
et
plus
oui,
positives.
Oui. Ouais, c'est tout un engrenage, quoi.
Oui, dont on se rendait effectivement pas compte, et puis de même tout ce qui dans leur environnement peut les agresser, qui nous agresse pas. Voilà, on va, il y avait des années où on se posait sur la couveuse pour écrire sur le dossier, mais en fait, quand on se met dans la couveuse, tous les sons sont amplifiés énormément. Même un stylo qui est juste en train de gratter un papier, c'est désagréable. C'est comme si on te mettait une baffle à côté et d'un coup t'as un bruit. Tu t'es pas du tout rendu compte qu'il allait y avoir quelque chose qui arrivait. La lumière, on met des caches couveuses maintenant, des petites couvertures dessus pour amoindrir aussi nos plafonniers, nos néons, qui sont nécessaires pour certains gestes techniques, mais pas forcément pour tous les bébés de la pièce, si on a une pièce avec plusieurs bébés. D'où aussi l'intérêt de construire des unités de néonates avec des chambres mère-enfant et des chambres par-enfant pour que bah, les autres enfants ne soient pas touchés par l'entrée à 4 heures du matin du bébé très instable qui va avoir une heure et demie de soins techniques dessus, avec la lumière, avec du bruit autour, etc.
Et oui, bien sûr.
Protéger un peu les autres aussi de tout ça.
Les sons aussi, j'imagine.
Ouais, il y a des fois dans les services, il y avait des oreilles, c'est une espèce de dispositif technique qui enregistre le niveau de décibels dans une pièce avec une oreille qui est verte, orange ou rouge quand il y a trop de bruit dans une pièce de néonate pour rappeler aux autres, à tout le monde dans la pièce et on se calme, on baisse d'un ton, voilà, il y a des bébés ici, quoi.
Ouais, et puis je pense qu'on se rend pas du tout compte, quoi, quand on est dans le feu de l'action d'un geste technique ou quelque chose, le niveau sonore monte.
On apprend ça aussi à même en réa, même quand on fait quelque chose d'intense, qu'on est en train de gérer une respiration, une fréquence du cœur de bébé, à donner des indications, mais sans élever le ton, ça changera rien et ça va juste plus aussi agresser le bébé qui va encore être plus déstabilisé qu'il l'est déjà. Mais tout ça, c'est des choses récentes, c'est relatif, mais qui n'existaient pas effectivement au début de la néonate. Au début de la néonate, on sauvait des bébés, clairement, et c'était effectivement le cœur du problème. C'est qu'il fallait améliorer cette survie des grands bébés prématurés. Ça, maintenant, on l'a fait. Il faut qu'on travaille encore à améliorer leur environnement et tout ce qui peut les agresser pour qu'ils puissent évoluer jusqu'à terme sans avoir tout ça, ou en tout cas le moins possible.
À quel moment est-ce qu'on peut dater vraiment le début de la néonate, en France en tout cas?
Je ne saurais pas te dire, honnêtement.
À 10 ans près, tu vois, juste pour avoir
une
idée.
Je pense que c'est dans les années 80, 70-80, la découverte.
Oui, donc c'est très récent.
Ouais, avant c'était, on va voir quoi, hein, on met le bébé près du feu, près d'une source de chaleur, etc. Puis après il y a eu l'invention des couveuses et puis de l'assistance respiratoire, de la découverte que l'oxygène les faisait survivre, que probablement il y avait effectivement des problèmes respiratoires, et puis après découverte d'autres substances qui ont aussi améliorer tout ça. Mais oui, ça fait 40 ans, on va dire, que la néonate est vraiment une discipline à part entière. Il y a de la recherche dessus aussi et des inventions, enfin des nouvelles façons de faire. Et peut-être qu'on a atteint un point technique assez bien maintenant qui fait que voilà, ça nous laisse du champ pour travailler à la place des parents, à l'environnement sonore, lumineux, ce qu'on appelle aussi des soins de développement, c'est-à-dire intervenir quand le bébé va se réveiller et pas aller le réveiller dans un moment de sommeil profond, parce qu'on sait que c'est le sommeil le plus important pour le développement. C'est là que se créent aussi beaucoup de choses au niveau des neurones. Être adéquat. Après, on ne peut pas toujours tomber au bon moment, mais en tout cas, on essaye, quand c'est des moments stables, on va dire, dans le séjour du bébé, de faire ça, de se caler sur son rythme à lui.
Ah, c'est pour, génial.
Et pas sur le nôtre, quoi. Travailler là-dessus.
Oui, faire au mieux pour s'adapter à lui, et pas l'inverse, quoi.
Voilà,
que ce soit lui qui s'adapte à son milieu.
Effectivement.
On dit souvent qu'en pédiatrie, donc en néonate aussi, j'imagine qu'on s'occupe de deux ou donc trois patients, en l'occurrence, il y a deux parents. Est-ce que vous le ressentez comme ça dans le service?
Oui. Des fois, bébé va beaucoup mieux, mais c'est papa et maman qui craquent l'un ou l'autre parce que ça commence à faire longtemps que bébé est en néonate, parce qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes au début, de que l'enfant ne va pas survivre, exactement, et que les gens ont tenu bon, parce que ben il fallait, parce que bébé lui il allait pas. Maintenant que bébé va mieux, les choses se relâchent un peu, donc là effectivement on peut parfois passer plus de temps à essayer de rassurer les parents, à expliquer plus de choses, à se projeter sur l'avenir, à se projeter sur l'autre à la maison, des choses qui n'étaient pas encore envisageables forcément pour eux parce qu'ils étaient au jour le jour, à la demi-journée de ce qui se passait pour leur bébé. Donc oui, en pédiatrie, globalement, on sait qu'on ne doit pas négliger l'aspect des parents, l'aspect de ce qu'ils peuvent nous donner comme ressenti sur leur enfant. Ils le connaissent mieux que nous, alors c'est un peu moins valable dans la néonate parce que forcément, au début, ils peuvent moins passer de temps et puis ils ne le connaissent pas. Voilà, il n'y a eu que la grossesse. Ils n'ont jamais rencontré ce bébé. Donc, il y a aussi ça à amener, c'est-à-dire cette rencontre qui n'est pas uniquement la rencontre d'un bébé très malade, très fragile, voilà, qui est leur bébé avant tout. Tout ce qui s'est fabriqué, tout ce qui s'est pensé pour ce bébé, et ben, tout n'est pas acheté à la poubelle parce qu'il est né avant. On peut allaiter un bébé prématuré, on peut voilà, lui amener des doudous, on peut amener des dessins des grands, on peut amener un peu de la vie de la maison pour ce bébé, même si pour l'instant, lui, il ne peut pas rentrer à la maison. Et voilà, travailler aussi avec la fratrie. C'est vrai que pour les grands frères, grandes sœurs, d'un coup, ben, bébé est arrivé. Mais c'était pas vraiment a priori le moment où il devait arriver. Papa et maman sont plus trop là, plus trop dispo, enfin, en tout cas, bien préoccupés par le bébé. Et il y a aussi, voilà, tout l'aspect psychologie. Enfin, on a des psychologues dans tous les services de néonates pour aussi être disponibles pour ses parents, mais aussi pour les questions qui peuvent se poser pour les grands frères, grandes sœurs. Et parfois l'entourage aussi, hein. Parfois même l'entourage, il m'est arrivé de répondre au téléphone à des grands-parents, même si on dit toujours qu'on donne les nouvelles aux parents, mais c'était tellement envahissant, les parents savaient plus quoi répondre sur l'état et ça perturbait, je voyais bien la dynamique familiale, que je leur ai dit, bah, écoutez, si vous m'autorisez, je vais parler directement avec la grand-mère et puis ça va peut-être apaiser les choses, parce que faire le messager, c'est pas facile pour ses parents, hein. Faut se rendre compte
c'est
que
très lourd,
avec leur monde extérieur, ben d'un coup, c'est eux qui vont transmettre. Pourquoi le bébé est arrivé plus tôt, comment il va.
Et leur demander de vulgariser à nouveau pour un public qui n'est pas du monde médical, donc c'est une double traduction pour eux aussi.
C'est ça, exactement. Ouais. C'est un peu du téléphone arabe. Au moment où on perd quand même des fois le vrai fil de l'information, ou en tout cas ce qui était le plus important, et au détriment du reste, parce que ça angoisse tout le monde, parce que les gens compatissent et ils se disent ah, mais c'est terrible, etc. Et oui, donc c'est vrai que cette place des parents, elle est pas centrale, bien sûr que c'est le bébé avant tout, comme on leur dit, si bébé va pas, on s'occupera de bébé, on le stabilise, et après on vous appelle pour vous dire ce qui s'est passé, etc. On va jamais faire dans l'autre sens, mais on va y penser, on va les inclure là-dedans. Et puis bah il y a beaucoup de parents qui s'investissent aussi dans les associations justement de parents de bébés prématurés ou de parents endeuillés d'un nouveau-né, pour se soutenir aussi, parce qu'ils ont aussi des choses à s'apprendre, à se transmettre entre eux, qui va au-delà de nous, le rapport que l'on doit aussi garder de soignants à parents, d'informations et de soutien. Mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent se nouer avec les autres parents du service, ou d'autres parents qui sont plus, dont les bébés ne sont plus hospitalisés.
Dans le mail que tu m'avais envoyé, tu m'avais parlé du fait que toi, tu t'étais retrouvée justement côté parent d'un enfant hospitalisé. Alors, on va pas du tout rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, parce que voilà, c'est pas le sujet de cet épisode, puis c'est quelque chose qui vous appartient. Mais est-ce que tu peux nous raconter, voilà, comment t'as vécu cette période de ta vie et puis de la vie de ton enfant?
Eh oui, je suis passée de l'autre côté de la barrière, comme je dis. Je n'y attendais pas du tout. Mais voilà, pour ma fille, effectivement, qui a dû être hospitalisée après sa naissance, je me suis retrouvée, voilà, un peu bête, quoi. Me dire, attends, oui, non, là, je ne suis pas le pédiatre. Je suis sa maman et j'angoisse. J'angoisse tout bêtement, tout simplement. Et puis je me suis retrouvée, aller à l'hôpital pour la voir elle, à être soutenue par les autres parents qui m'expliquaient les petites subtilités, les petits détails d'organisation logistique, du parking, de l'hôpital, de à quelle heure arriver, des casiers, de toutes ces choses-là, et où je m'étais jamais, jamais, jamais retrouvée là-dedans. J'étais la personne qui donnait ces informations-là, parfois. Voilà, le casier, c'était l'endroit où vous pouvez loger à tel endroit. Mais là, j'étais démunie, quoi. J'étais comme les autres parents, hein. Bien sûr, j'avais les codes de l'hôpital, de tout ce qui peut se passer, des appareils, des fils, etc. Il y avait des choses, c'était implicite. J'avais pas besoin d'informations là-dessus. Mais pour tout le reste, je me retrouvais comme tous les autres parents. Et d'ailleurs, j'ai pas mentionné le fait que j'étais pédiatre parce que pour moi, j'étais aux autres parents avec qui j'ai pu échanger parce que j'étais pas du tout là dans ce rôle-là. Je m'occupais pas du tout de leurs enfants. J'avais pas besoin de savoir des choses. Je voulais savoir ce qui se passait pour ma fille et comment ça allait évoluer. Mais c'était vraiment bouleversant et je me suis dit ah oui, d'accord, on est quand même parfois trop jugeant en tant que soignant, tant qu'on s'est pas mis à la place, qu'on l'a pas vécu, en fait, on peut pas imaginer ce que c'est exactement. Voilà, quelques jours après avoir accouché, de devoir faire des trajets tous les jours pour pouvoir être auprès de ma fille, parce que je peux pas avoir de place là-bas, de chambre pour moi, quoi. Y a pas, c'est pas un hôpital qui est organisé comme ça, donc il faut que je sorte.
Donc tu viens tous les jours la voir,
voilà,
à l'hôpital.
Ouais. Heureusement, les visites sont autorisées tous les jours et sans réserve d'horaire pour les parents, à part des horaires pour certains soins ou certaines transmissions. Voilà, on fait le trajet, on cherche effectivement une place de stationnement tous les matins, on trimballe notre pain de midi, le lait que j'ai tiré pour ma fille pour pouvoir le donner à l'équipe pour qu'il lui donne, et puis en plus c'est période de Covid, hein, donc voilà, les blouses, les gants, les masques, voilà, toute cette protection nécessaire pour certainement pas contaminer les bébés, et puis voilà, rencontrer d'autres parents tout aussi perdus que nous, tout aussi en attente de résultats, d'informations, et puis pas de, enfin, s'il y avait une petite salle des parents, ouais, qui était, je dirais pas que c'est convivial, mais bon, c'était un petit endroit pour pouvoir déjeuner, pour pouvoir faire une boisson chaude, etc. Mais pareil, avec le Covid, c'était pas très grand, on pouvait pas être plus que, je sais plus, 4 parents.
Ah oui, bien sûr.
Donc bon, quand il y avait un petit peu de monde, on attendait, ou alors on sortait. Bon, c'était un peu l'hiver, mais on sortait dehors, ça nous faisait pas de mal d'aller faire un tour, et puis le congé des papas aussi. Moi, ça m'a vraiment convaincu que, enfin, je l'étais déjà, hein, mais il y a depuis quelques années seulement une association de parents de bébés prématurés qui a obtenu un congé paternité spécifique pour les papas de bébés hospitalisés.
D'accord.
En néonate après leur naissance, qui permet que, voilà, que mine de rien, la maman qui vient d'accoucher il y a quelques jours ou la veille n'est pas à faire tous les trajets en voiture toute seule ou des choses qui, en fait, quand on vient d'accoucher, c'est...
C'est dur.
C'est chaud.
Bien sûr.
Encore plus quand on a une césarienne ou autre. Et voilà, ce congé du papa, c'est pas une lubie. Voilà, c'est nécessaire. Et puis les bébés, ils ont besoin de leurs deux parents.
De leurs deux parents. Que... Mais c'est pas un luxe, hein, c'est sûr.
Quand maman doit aller, tirer son lait ou faire des soins pour elle, on sait qu'il y a aussi quelqu'un d'autre, un fil rouge, qui ne change pas, qui n'est pas un soignant qui va changer peut-être toutes les 12 heures ou toutes les 8 heures. Non, on est ses parents et on est là aussi pour la soutenir, pour pouvoir, maintenant la place des parents, effectivement, quand même dans les hôpitaux, on peut changer sa couche, on a le droit de lui faire un bain quand elle va mieux, on peut participer, on n'est pas uniquement passif, observateur,
spectateur de ce qui se passe, ouais.
À regarder et à être désemparé, quoi. On peut quand même avoir des moments simples avec nos enfants, même si ils sont pas sortants tout de suite et qu'ils ont encore besoin de l'hôpital et des soignants. Mais c'est vrai que je vois maintenant dans ma pratique de tous les jours combien ça a impacté mon regard sur les parents et sur ce qu'ils peuvent vivre, physiquement, logistiquement, mais aussi émotionnellement.
Et puis le lien qu'il y a entre tous les parents, j'ai l'impression, parce que tu racontes que c'est ce qui t'a le plus marqué, quoi, cette cohésion, ce soutien qu'il y avait vraiment parmi les parents, entre eux, quoi, entre familles.
C'était... Je pense qu'ils avaient besoin aussi, eux, de transmettre, ceux qui sont là depuis plus longtemps, d'être un peu les anciens et de faire partager de leur découverte ou de leur déconvenue ou de leurs difficultés pour que les autres ne vivent pas ça, tellement il y a beaucoup de choses à gérer à ce moment-là, même les aînés, comment, est-ce qu'on les fait venir ou pas, est-ce que, comment on s'organise à l'extérieur pour les autres, et puis il y a tout l'aspect aussi, moi j'ai trouvé justement une nouvelle à la famille élargie, que j'ai trouvé difficile à gérer, même si je connaissais des choses. Répéter plusieurs fois les mêmes choses par jour, qui sont parfois des choses difficiles, c'était très violent, quoi. C'était... À un moment donné, j'aurais voulu pouvoir couper et ne plus parler de ça quelques moments en rentrant le soir. Mon fils m'aidait beaucoup parce que j'ai un enfant plus grand, donc qui était lui dans son quotidien, voilà, et c'était très frais, quoi. Je me disais, oui, je me coupe un moment de toute cette partie-là. Voilà, je suis maman de plusieurs enfants, donc je peux me dissocier complètement et passer à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus légères, mais ça m'empêche pas, voilà, d'y penser en fond. Et voilà, et ça, c'est ce que vivent, je pense, tous les parents. De plusieurs enfants également, c'est de pouvoir voilà, se partager, effectivement, même quand il y a des choses assez difficiles de l'autre côté.
Oui, bien sûr. Ouais. Oui, puis comme tu dis, d'intégrer la fratrie dans ce qui se passe, et puis à la fois peut-être avoir envie de les protéger de ce qu'on voit à l'hôpital, c'est dur, des enfants avec des câbles, voilà, des fils qui sortent, voilà, puis... C'est toujours un peu compliqué. Enfin, moi, je me souviens avoir dit à des entourages de patients. Moi, j'ai jamais travaillé en néonat, mais l'imaginaire crée beaucoup de choses aussi.
Oui.
Et puis parfois, je sais pas ce que t'en penses, mais quand on se retrouve devant le patient, bah, parfois, dans 99% des cas, on me disait, ah, c'est que ça. Alors que ça, on s'entend, mais
Oui.
je crois que l'imaginaire peut aller très très loin, et que parfois, ça vaut le coup de montrer vraiment ce qui se passe à l'hôpital.
C'est souvent ce qu'on fait pour quand c'est des bébés prématurés un petit peu attendus, c'est-à-dire qu'on sait que les choses vont pas aller jusqu'à terme et on fait visiter aux parents et on leur montre parfois des bébés du même gabarit à peu près dans une couveuse. Et ça, je suis d'accord avec toi, ça enlève beaucoup d'idées fausses, de choses imaginées qui sont parfois impressionnantes. Et en fait, non, c'est un bébé en miniature, il a tout ce qu'il faut. Alors, il a des petits autocollants sur le thorax, mais un petit bracelet.
Puis expliquer, voilà, chaque équipement à quoi il sert aussi.
Et ça, effectivement, après, il y a des parents, au bout de quelques jours, quelques semaines, ils sont hyper à l'aise même. Hein. Je leur dis en plaisantant, je vais vous embaucher comme assistant. Parce que...
On va vous garder ici.
Vous savez tout. c'est bon, moi, je vous embauche, hein, il n'y a pas de problème. Ouais, donc oui, ça vulgarise beaucoup. Et les enfants, après, on est très surpris. En fait, ils font abstraction très, très vite de tout ça. Eux, ils voient le bébé, justement. C'est marrant, hein. Ils ne voient pas du tout tout ce qu'il y a autour, la couveuse, les fils, les machins, le scope, pas du tout. Eux, ils voient le bébé, vraiment. Ah, ils le voient bouger. Voilà, non, j'ai toujours été assez abasourdie par ça, mais ils nous apprennent beaucoup, justement. Et c'est là qu'on voit toute leur spontanéité, c'est que voilà, ils font fi de tout ça. Oui, d'accord. Bon, bah ça appartient à l'hôpital, au docteur, les fils, tout ça. Mais voilà, en fait, en vrai, il y a mon petit frère, ma petite sœur qui est là, le petit bébé que j'ai senti peut-être bouger dans le ventre, dont on
Bien
a beaucoup
sûr,
parlé. Et c'est eux les moins impressionnés par rapport aux adultes.
Ah ouais, on a beaucoup à apprendre des enfants. Hein.
C'est comme moi, je vois toujours les enfants avec des plâtres. Je me dis, mais nous, avec un plâtre, on est tout embarrassés. Là, on ne sait pas quoi faire. On a nos béquilles. Eux, mais
oui,
ils font
vrai.
Comme s'ils n'en avaient pas, quoi. Donc, on se fait des idées. Ouais, des fois, on veut les protéger. Mais en fait, on se trompe de point de vue. Et il faut peut-être essayer de se remettre à leur niveau et dire, en fait, est-ce que c'est si impressionnant que ça? Est-ce que voilà, il n'y a pas des choses qu'on peut montrer, qu'on peut adapter. Et puis il existe beaucoup de livres aussi dans ces cas-là pour les grands frères et grandes sœurs de bébés en néonat, avec des photos de couveuses, enfin ou même des illustrations. Il y a beaucoup de travail qui a été fait pour accueillir ces enfants-là un petit peu de façon préparée dans les services.
Est-ce que t'as des références à partager? Peut-être on les mettra en description de l'épisode si t'en connais quelques-uns.
Et écoute, oui, je t'en ferai passer. Je crois qu'il y a aussi dans la collection Sparadra qui fait beaucoup d'illustrations pour aller au
Super.
Bloc, etc. Ils en ont aussi sur les bébés prématurés, mais oui, je te donnerai des
Ah, bah avec plaisir, on mettra ça en description de l'épisode, si ça peut aider du monde. Bah, merci beaucoup, Charlotte, pour toutes ces explications. C'est génial de connaître ça de l'intérieur. Puis je trouve, voilà, le point de vue que tu as maintenant que tu as vécu ça aussi, comme tu dis, de l'autre côté de la barrière, on voit que ça a enrichi aussi ta pratique. Et bon, on souhaite à personne de passer par ces étapes-là, mais je trouve très très beau de pouvoir ressortir des choses positives d'une épreuve pareille. Donc, bon, puis rassure-nous, du coup, tout va bien?
Oui, tout va bien pour ma fille.
Bon,
c'est derrière nous tout ça.
Ah bon, super. Est-ce que tu as des projets pour la suite professionnelle? Est-ce que tu es épanouie dans ce que tu fais? Est-ce que tu as des envies d'ailleurs, d'autres choses? Je ne sais pas.
Non, pour l'instant, moi, j'ai changé récemment un petit peu de structure. Donc, je suis en plein dans voilà, la nouveauté, dans découvrir des nouveaux modes d'exercice et de nouvelles équipes. Non, je suis là je suis auprès des nouveau-nés tout le temps. Donc, ça me convient bien. Je fais une formation sur l'allaitement, surtout en ce moment, là, cette année, pour compléter mes compétences qui peuvent servir en plus en maternité. Voilà, c'est quelque chose. Il fallait un petit peu de temps. J'en ai un petit peu cette année et avec voilà les nouvelles modalités, on va dire parfois de formation entre le présentiel et le distanciel, c'est aussi plus pratique à gérer qu'une vie de famille. Donc,
c'est vrai. Ouais, ouais.
C'est mon challenge cette année. Ça m'a pris d'un coup comme ça et je me suis inscrite et voilà, c'est fait. Donc.
C'est une formation qui est à destination des pédiatres, néonatologistes ou à plusieurs
À plusieurs professionnels de santé qui tournent autour des nouveau-nés, donc enfin et des enfants, enfin en tout cas de pouvoir encadrer un allaitement, donc infirmière, sage-femme, pédiatre, voilà, personne qui travaille dans des PMI, enfin donc des structures de protection maternelle et infantile, donc qui vont parfois à domicile vérifier des poids, etc., et aider justement des couples maman-bébé et papa à bien installer cet allaitement. C'est quelque chose qu'on a des notions, bien sûr, pendant nos études, mais là, c'est vraiment très, très approfondi. Et c'est très intéressant. Retourner à l'école, c'était pas désagréable. Ça demande une attention, voilà, que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. On voit qu'un petit doliprane pour le mal de tête le soir, c'est pas mal.
Ouais, mais c'est vrai qu'on perd un peu en attention, en concentration, c'est vrai. Hein, je crois que tout le monde le dit, ça.
Impressionnant. On se dit, mais comment on faisait pour rester des journées entières sur les bancs de la fac
et c'est vrai. J'ai l'impression que tout le monde me dit ça, mais ouais, c'est vrai qu'on le ressent. Oui, moi je me disais, mais comment on faisait au lycée quand
c'est
on avait 9 heures de suite, fallait être complètement concentré sur tout ce qu'on écoutait. Ouais, ça change avec dans l'avancée de la vie comme ça.
Oui, quand différent. On est plus voilà, je sais pas, dans la pratique quoi. Ça me fait bizarre de revenir. Puis je pense quand même que les capacités d'attention, de mémoire, etc., bah, elles changent aussi probablement avec l'âge et les préoccupations qu'on a ailleurs.
Ouais, c'est
mais
sûr.
Mais c'est bien aussi, ça permet d'échanger. C'est un truc national, donc il y a des gens qui viennent un peu partout et de voir un peu les différentes aussi pratiques. C'est toujours intéressant pour sa pratique à soi de voir ce qui se fait ailleurs.
Ouais, bah, génial, génial. Merci beaucoup, Charlotte. On va finir avec le petit portrait chinois.
D'accord.
Alors, la première question, si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta pratique ?
Alors, je pense qu'il me faudrait des yeux rayon laser. Parce que les bébés détestent qu'on les déshabille pour les examiner, sauf que bah, pour tout voir, moi, je n'ai pas encore inventé d'autres choses. C'est ce que je dis, voilà, il me faudrait des rayons laser, je pourrais scanner, je verrais tout sans pouvoir ouvrir pyjama, body, brassière, chaussettes, et les faire souvent pleurer un peu, parce que bah, pour eux, l'air frais, c'est tout nouveau, c'est désagréable. Donc, ça serait vraiment ça.
Question suivante, la phrase que tu prononces le plus au quotidien dans ton travail ?
Alors, je dirais, c'est dodo sur le dos. C'est les consignes de prévention de la mort inattendue du nourrisson. Donc, voilà, les consignes de couchage. Et alors, ça, c'est vraiment multiplié par autant de fois que je vois des nouveau-nés, voilà, tout neufs, pour lesquels on donne les conseils pour la première fois. Voilà, ce dodo sur le dos. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais mettre les enfants sur le ventre, mais quand on les surveille, quand ils sont éveillés. Mais voilà,
pas pour cela.
Ça a drastiquement changé les choses. Voilà, ça a diminué nettement ces accidents dramatiques et déplorables, voilà, des enfants tout petits.
Oui, la courbe, elle est.
Oui, c'est impressionnant.
Elle est en chute libre hein, depuis quelques années.
On a malheureusement pas tout éradiqué, mais ça, je pense que peut-être on n'y arrivera pas. Mais en tout cas, on sait que ces consignes-là, elles ont fait changer les choses dans le bon côté des choses. Donc il faut continuer. Il faut donner les bons messages. Voilà, ça ne veut pas dire, comme je disais, il faut laisser tout le temps sur le dos. Mais pour le sommeil, il faut des bonnes conditions et les choses se passeront bien.
Question suivante. Si tu étais un médicament, lequel serais-tu ?
Alors, il y a un médicament magique en néonate qu'on appelle le surfactant. C'est une substance qu'on produit, enfin que le nouveau-né produit naturellement pour bien ouvrir ses poumons à la naissance. Donc, il le fait quelques temps avant la naissance. Et du coup, les bébés prématurés, bah, eux, ils naissent bien avant la date. Donc, ils n'ont pas forcément encore préparé cette substance. Donc, on la leur donne, on la leur administre dans les poumons. Et c'est magique, c'est vraiment du tout ou rien, quoi. Ils vont très mal au niveau respiratoire. On donne ce médicament et tout redevient parfait, quoi.
Donc quelle voie d'administration vous
alors on l'en met à l'entrée des poumons dans la trachée, donc on doit intuber l'enfant, c'est-à-dire lui placer un petit une petite sonde ou un petit cathéter. Il y a aussi quelques techniques un peu plus récentes avec un cathéter seulement et pousser ce petit liquide dans les poumons et puis on enlève tout et ils vont bien. Après, ils n'ont pas besoin de rien, mais clairement entre les besoins en oxygène avant et après et les signes que le bébé est en gêne respiratoire, c'est
le jour et la nuit.
C'est toujours impressionnant, ouais. On attend qu'un jour on aérosol, hein, que ce soit beaucoup plus simple à administrer, qu'on ait juste à poser un petit masque, mais jusque-là, la science n'a pas réussi à faire fonctionner parfaitement ça.
Faut croiser les doigts pour
voilà,
pour
on
la
espère
recherche,
que ça va continuer à progresser, qu'on ait des méthodes beaucoup plus simples, moins invasives.
C'est sûr, c'est sûr. Question suivante, beaucoup plus légère, plutôt thé ou café ?
Café le matin et thé l'après-midi. Donc, comme des fois on reste 24 heures, voilà, ça peut enchaîner.
Et oui, alors du coup, tu peux avoir des gardes de 24 heures,
oui.
Hein, c'est ça ?
Ouais, on fonctionne notamment sur les week-ends, les jours fériés, on fonctionne comme ça pour que y en ait qui aient leur week-end avec leur famille, avec des projets, et que les autres soient auprès des enfants. Donc effectivement, il y a des fois on reste du matin jusqu'à l'autre lendemain matin.
Exactement, 24
heures. Ce que découvrent parfois des parents, ils disent « Ah bon, mais oui, oui. »
Et vous étiez déjà là hier.
Oui, effectivement, et je suis restée en fait.
Et oui, c'est pas facile de comprendre les roulements des
personnels. Pour eux, c'est vraiment un peu nébuleux.
C'est ça. Question suivante, plutôt Crocs ou basket ?
Crocs, toujours Team Crocs, depuis le début. J'en ai eu plein de paires, des couleurs différentes, du violet, forme ballerine, mais toujours Team Crocs.
C'est vrai qu'ils ont quand même une quantité de références qui est assez, assez épatante chez Crocs.
Il y avait même les petits pins à un moment donné, je crois que j'étais pas allée jusque-là, mais...
Non, moi, j'en ai perdu beaucoup aussi, je sais pas, je pense en les pieds quand ils se chevauchent, quand on croise les jambes, je sais pas ce qui se passe, j'en ai perdu plein, mais... C'était ma grande passion, fut un temps. Question suivante, plutôt 10 ans dans le même lieu d'exercice ou 10 lieux d'exercice en un an ?
Ah non, 10 ans dans le même lieu. C'est important, on travaille beaucoup en équipe quand on fait des réanimations, etc. De connaître les gens, ils savent comment on fonctionne, on sait comment ils fonctionnent, on communique beaucoup plus facilement que de tâtonner et de changer. Ouais, je m'imagine même pas changer d'endroit toutes les semaines, ça serait... angoissant à chaque fois.
Ouais, dans des services comme ça, je peux qu'imaginer.
Ouais, il faut quand même une certaine continuité, même si on fait ce qu'on peut, surtout à l'heure actuelle, des crises un peu de vocation, et dans le milieu hospitalier, qui sont vraiment des revendications importantes et qui sont assez préoccupantes actuellement. Donc, les liens d'équipe, c'est très, très important.
C'est précieux. Hein, ouais. Et la dernière question, si tu n'avais pas exercé le métier de pédiatre, vers quelles études ou vers quel métier te serais-tu orientée ?
Alors, ça n'a rien à voir. Mais alors, rien à voir. Je voulais être ingénieure météo, sinon.
Ah bah oui, en effet.
Rien à voir. Hein. Donc, c'était vraiment qui tout double. Je faisais la première année de médecine. Si ça passait pas, j'avais même pas envie de redoubler. J'avais dit non, c'est bon.
Et ah oui, c'était ton plan
météo.
B, quoi.
Voilà, c'est ça. Et bon, il a pas eu besoin du plan B, mais oui, ingénieure météo.
Ça, c'est très bien. Voilà, une reconversion toute trouvée, on ne sait jamais ce que la vie peut être réservée.
Maintenant, on peut changer de... Je pense qu'il y aura toujours du boulot dans mon métier. Mais...
Oui, je n'en doute pas. Merci beaucoup, Charlotte.
De rien, Marielle, c'était un plaisir.
C'était vraiment super, super intéressant. Et quel beau métier tu fais. Ça, je pense qu'on doit te le dire souvent, mais
oui,
vraiment...
C'est vrai.
C'est une phrase qu'on entend souvent, mais là, je pense que tout le monde le pense à la fin de cet épisode.
En tout cas, voilà, moi, c'est ça que j'adore et qui me motive.
Ça se voit, ça se voit. Bon, Charlotte, une petite sieste cet après-midi. Merci beaucoup
pour... J'aimerais tes conseils.
Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Et puis, je te souhaite bonne continuation pour la suite.
Bah, toi aussi. Bon
merci.
Bon à ton podcast.
Merci beaucoup, Charlotte. À bientôt.
À bientôt, Marie.
Un grand merci à Charlotte, dont j'admire la concentration et l'élocution après une nuit de garde au travail. Vous trouverez en description de l'épisode quelques liens ressources qui vous renverront vers des contenus cités en cours d'épisode. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau partage d'expériences.